Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9NR3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans cette biographie historique, Cédric Michon étudie Henri VIII non comme le seul protagoniste légendaire de ses 6 mariages, mais comme l'agent et le produit d'une transformation majeure de l'Angleterre entre 1509 et 1547. L'ouvrage suit l'écart considérable entre le jeune souverain cultivé, athlétique et catholique qui accède au trône à 17 ans et le monarque autoritaire qui meurt près de 4 décennies plus tard. Son objet central est la démesure du pouvoir, la capacité d'un roi à briser des cadres religieux, politiques, fiscaux et patrimoniaux qui paraissaient durables. Michon replace ce règne dans l'Europe de la Renaissance aux côtés de François Ier, Charles Quint et Soliman le Magnifique, afin d'éviter une lecture exclusivement insulaire. Biographie ample et documentée, le livre associe le destin personnel du Tudor aux institutions, aux conflits confessionnels et aux rapports de force internationaux. Il privilégie ainsi les mécanismes et les conséquences de la rupture avec Rome plutôt qu'une simple chronique des épisodes conjugaux les plus célèbres. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la rupture avec Rome comme pivot du règne et non comme conséquence d'un seul divorce. Le point structurant de l'analyse est la rupture avec la papauté, que Michon présente comme l'événement décisif du règne. Les mariages d'Henri VIII, et en particulier son désir d'obtenir l'annulation de son union avec Catherine d'Aragon, sont indispensables pour comprendre la crise. Toutefois, réduire la séparation d'avec Rome à une affaire sentimentale ou dynastique ferait manquer son ampleur. Elle modifie la source même de l'autorité religieuse dans le royaume, la monarchie s'affirme à la tête d'une église nationale séparée de l'obédience pontificale. Cette reconfiguration transforme les rapports entre le souverain, le clergé, les élites politiques et les sujets. Le livre conduit donc à distinguer le déclencheur immédiat d'une décision de ses effets institutionnels durables. Une querelle sur la validité d'un mariage devient une redéfinition de la souveraineté anglaise. Elle suscite aussi des résistances, des répressions et des débats intellectuels qui empêchent de voir la réforme anglaise comme un processus uniforme ou paisible. Henri VIII demeure, sur plusieurs points doctrinaux, éloigné d'un protestantisme simple et cohérent. Le schisme n'équivaut pas mécaniquement à une conversion complète aux réformes continentales. Cette complexité éclaire la spécificité du règne. L'indépendance ecclésiastique sert d'abord une souveraineté royale renforcée. La religion est ainsi étudiée comme une conviction, un enjeu dynastique et un instrument de gouvernement indissociable. Deuxièmement, de la dissolution des monastères à la redistribution matérielle du pouvoir. La suppression des monastères constitue l'une des manifestations les plus concrètes de la rupture engagée sous Henri VIII. Michon l'inscrit dans une politique qui ne concerne pas seulement les croyances, elle atteint les propriétés, les revenus, les réseaux locaux et les formes d'assistance autrefois liées aux établissements religieux. La confiscation des biens monastiques donne à la couronne des ressources considérables et ouvre la voie à leur redistribution. Dès lors, la réforme religieuse change aussi la carte sociale et patrimoniale de l'Angleterre. Cette dimension permet de comprendre pourquoi l'expression de démesure ne désigne pas uniquement la violence personnelle du roi. Le pouvoir intervient directement dans des institutions anciennes, détruit leurs bases économiques et réalloue leurs biens. Les bénéficiaires de cette redistribution peuvent avoir intérêt à la pérennité du nouvel ordre, tandis que les communautés affectées subissent une rupture dans leur environnement religieux et social. Le livre relie ce mouvement à un durcissement fiscal et à des saisies de demeures ou de domaines appartenant à de grandes familles. Il montre ainsi que la construction de l'État ne se fait pas dans l'abstraction administrative, elle dépend de ressources mobilisées, de fidélités réorganisées et de biens transférés. L'intérêt de cette approche est de mettre en relation les décisions du sommet avec leurs effets matériels. La réforme henricienne apparaît comme une politique de souveraineté, mais aussi comme une vaste opération de recomposition des fortunes et des dépendances. Troisièmement, les exécutions et les disgrâces révèlent les limites d'un gouvernement fondé sur la faveur. La biographie accorde une place importante aux exécutions, aux répudiations et aux chutes de ministres qui ont durablement façonné l'image d'Henri VIII. Anne Boleyn, Thomas More, Thomas Cromwell et Catherine Howard comptent parmi les figures les plus connues de cette histoire. Mais l'enjeu n'est pas d'ajouter des épisodes tragiques à une légende déjà célèbre. Michon les rapporte à un mode de gouvernement dans lequel l'accès au roi, la faveur et la confiance souveraine peuvent déterminer l'ascension comme la ruine. Cette perspective évite deux simplifications. D'une part, les victimes ne sont pas seulement prises dans des drames privés, elles se situent au croisement de rivalités de cour, de choix confessionnels, de besoins successoraux et de conflits diplomatiques. D'autre part, le roi ne gouverne pas seul au sens administratif. Ses conseillers, chanceliers et serviteurs participent à la conception et à l'exécution des politiques. Pourtant, la concentration de l'autorité autour de sa personne rend leur position précaire lorsque leurs orientations, leur utilité ou leur relation avec lui changent. La violence devient donc aussi un signal politique, elle discipline les entourages et affirme qu'aucun statut, y compris celui d'épouse ou de principal ministre, ne garantit une sécurité durable. Le livre aide à lire ses affaires sans les isoler du fonctionnement de la cour. Il met en évidence le coût humain d'un pouvoir qui associe ambition institutionnelle, décision personnelle et recours spectaculaire à la sanction. Quatrièmement, Henri VIII dans la compétition des souverains de la Renaissance européenne. Cédric Michon replace Henri VIII dans une génération de princes qui accèdent successivement aux principaux trônes européens François Ier en France, Charles Quint dans les monarchies espagnoles et Soliman le Magnifique dans l'Empire ottoman. Ce cadre comparatif est essentiel car il restitue les ambitions du roi anglais. Henri ne gouverne pas une île isolée. Il cherche le prestige militaire, la reconnaissance diplomatique et la grandeur dynastique dans un espace européen dominé par des rivalités incessantes. Cette mise en contexte explique notamment la persistance de ses entreprises françaises et son désir de rivaliser avec les monarques les plus puissants de son temps. Elle donne aussi une autre portée au choix intérieur. Une succession incertaine, une alliance matrimoniale ou une rupture religieuse ont des conséquences internationales, parce qu'elles modifient les relations avec la papauté, les Habsbourg et le Royaume de France. La politique étrangère et la politique de cour ne peuvent donc être séparées nettement. Le livre oppose implicitement les prétentions de la monarchie anglaise à ses moyens réels, tout en montrant la force symbolique de la royauté renaissance cérémoniale, culture chevaleresque, magnificence et guerre, servent à afficher la puissance. Le résultat est une biographie moins étroite qu'un récit national. Henri VIII y apparaît à la fois comme un souverain anglais et comme un acteur d'une compétition continentale. Sa singularité ne tient pas seulement à ses mariages ou à son caractère, mais à l'échelle des ruptures qu'il impose dans cette Europe de princes conquérants. En dernier lieu, la métamorphose du souverain de l'idéal humaniste au pouvoir tyrannique, l'un des fils directeurs les plus marquants est la transformation d'Henri VIII lui-même. Le livre part du contraste entre le roi couronné en 1509, jeune, instruit, musicien et sportif, présenté comme un souverain catholique prometteur, et l'homme que l'Europe de 1547 perçoit largement comme un tyran. Ce contraste ne doit pas être compris comme une explication psychologique unique, où le caractère suffirait à rendre compte de tout. Il sert plutôt à poser la question historique de l'interaction entre une personnalité monarchique, les épreuves du règne et les instruments croissants de l'autorité. Les difficultés successorales, les ruptures matrimoniales, les conflits religieux, la guerre et l'exercice prolongé du pouvoir contribuent à durcir les choix royaux. En parallèle, les décisions prises par Henri accroissent les capacités d'intervention de la couronne nouvelle ressource, contrôle ecclésiastique, confiscation et usage coercitif de la justice politique. Une fois ces seuils franchis, le retour aux équilibres antérieurs devient plus difficile. La démesure désigne ainsi un processus cumulatif, chaque rupture rend possible, ou du moins pensable, une rupture ultérieure. Cette lecture garde ensemble le portrait d'un individu et l'histoire d'un État en mutation. Elle rappelle que les images opposées du prince de la Renaissance et du despote vieillissant ne sont pas nécessairement exclusives. Elles correspondent à des moments différents d'un règne durant lequel les attentes envers le roi, ses responsabilités et ses moyens d'action sont profondément redéfinis. C'est cette articulation entre biographie et transformation politique qui donne sa cohérence à l'ouvrage. En conclusion, Henri VIII, la démesure au pouvoir, s'adresse d'abord au lecteur qui souhaite dépasser l'imagerie familière des six épouses, des décapitations et des intrigues de palais. Il conviendra aux amateurs d'histoire de l'Angleterre Tudor, de la Réforme et de la Renaissance européenne, ainsi qu'aux étudiants ou lecteurs exigeants recherchant une synthèse substantielle en français. Son principal bénéfice intellectuel est de rendre intelligible un paradoxe, un règne dominé par des décisions très personnelles a pourtant remodelé durablement des institutions, des patrimoines et les relations entre l'État et l'Église. L'ouvrage se distingue de biographies centrées surtout sur le tempérament d'Henri ou sur la succession de ses unions. Michon fait des crises matrimoniales un élément d'un ensemble plus large, où la rupture avec Rome, l'essor de la prééminence royale, la dissolution des monastères, les confiscations et les rivalités continentales se répondent. La comparaison avec François Ier, Charles Quint et Soliman évite également de traiter l'histoire anglaise comme un cas isolé. Cette perspective européenne est particulièrement utile pour mesurer les ambitions du souverain et les contraintes diplomatiques qui pèsent sur ses choix. La thèse de la démesure donne au récit une forte unité, mais elle conduit logiquement à privilégier la radicalité et la violence du règne. Les lecteurs désireux d'un portrait plus contradictoire pourront utilement confronter cette interprétation à d'autres biographies. Cela n'enlève rien à sa valeur par son ampleur. son ancrage dans l'histoire politique et religieuse et sa capacité à relier l'homme aux transformations du royaume. Le livre constitue une porte d'entrée solide et stimulante dans le règne d'Henri VIII. Si vous souhaitez soutenir Cédric Michon, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.